Il nous sera difficile d'expliquer ce monde très nébuleux de l'édition scientifique, et plus on s'y penche, plus on s'aperçoit que l'article lui-même qu'on consulte peut être aussi important que l'étude qu'il rapporte. Où rédacteurs, éditeurs, acheteurs et lecteurs semblent se livrer à des escarmouches dans des enjeux économiques complexes. Le sujet étant peu évident d'accès et demandant beaucoup de pratique, nous sommes là encore allés dans une bibliothèque emprunter un bibliothécaire. Nous recevons donc dans notre data center Pierre Nagelen, bibliothécaire responsable des ressources électroniques à l'université Paul Sabatier, alias Toulouse 3, membre du collectif Savoir Commun, auteur de l'excellent blog Numéribib et du billet « Ce que nous dit la Covid de l'édition scientifique », dont on va s'y rapporter plus d'une fois, et fut professeur en lettres modernes avant qu'Unicode ne soit populaire. Ceci est la deuxième partie de l'interview axée sur les articles scientifiques. La première partie a été diffusée la semaine dernière. CPU carré petit utile. Pierre Nagelen, expliquez-nous pourquoi les scientifiques en France sont obnubilés par la publication d'articles scientifiques.
Parce que, en fait, ils sont évalués sur, donc sur leur publication scientifique. Et par conséquent, ils sont tenus par leur hiérarchie de fournir un certain nombre de publications scientifiques. C'est le principe qu'on a appelé « publish or perish ».
D'accord. Donc, s'ils ont
si
des KPI...
Si vous ne publiez pas, si vous n'existez pas...
Donc, ils ont des KPI, ils ont des objectifs chiffrés de publication, un peu comme n'importe quel commissariat sur le nombre d'affaires résolues.
On ne va pas jusqu'à un nombre minimal d'articles, mais c'est un peu ça l'idée. Et disons que pendant très longtemps, les choses sont en train de changer, mais ce qui comptait, c'était de publier dans des revues dites prestigieuses, avec un fort impact facteur, etc.
Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que le SIGAPS ?
Alors là, le SIGAPS, on parle précisément de la recherche au niveau des labos des CHU. Donc c'est un acronyme, ça signifie système d'intégration de gestion et d'analyse des publications scientifiques. Donc il a été conçu par le CHRU de Lille, il a été étendu à tous les CHU dès 2007. Et donc il est destiné à recenser et évaluer les publications scientifiques au sein des CHU. Et donc en fait, chaque fois qu'un chercheur d'un labo d'un CHU publie, cette publication va rapporter ce qu'on appelle des points SIGAPS. Voilà, c'est comme les bons points qu'on avait au CP.
D'accord, oui, c'est une très belle image.
Et donc ça va rapporter des points à son établissement et ça va jouer aussi sur son évolution de carrière. Et donc ces points, ils tiennent compte de deux paramètres principaux. Donc le classement de la revue scientifique en fonction de son facteur d'impact. Donc parce que préalablement à l'établissement de SIGAPS, il y a eu un classement des revues médicales avec des lettres ABCD. Et puis l'autre élément, ça va être le positionnement du chercheur dans l'ordre des co-signataires. Si je suis premier sur la liste des auteurs ou dernier, j'aurai le maximum de points. Si je suis deuxième, j'aurai un peu moins de points. Voilà, et etc. etc.
Qui est le recordman de publication d'articles de recherche scientifique en France ?
Alors, quand j'ai publié là, mon dernier billet là, sur mon blog, là, j'ai trouvé une étude assez intéressante qui date de 2019. C'est un chercheur de Stanford qui s'est amusé, entre guillemets, à recenser les 100 000 plus grands auteurs.
Dans le monde, hein,
Ouais. Alors, j'ai pris ses données sources, son fichier Excel, et j'ai fait un tri, j'ai évidemment fait un filtre sur la France.
Ouais.
Et là, roulement de tambour.
Numéro 1.
Donc pour la France, Didier Raoult arrive très largement en tête avec 2018 articles publiés entre 1979 et 2018.
Et c'était avant l'épidémie du SARS-CoV.
Ah oui, c'est là, c'est...
D'accord.
C'est toute sa carrière qui défile quasiment de 1979 à 2018.
En quoi ce record, même homologué par le Guinness Book, n'est pas crédible ?
Alors, si on regarde un petit peu les chiffres, 2018 publications en 40 ans, cela équivaut...
Je vais sortir la calculatrice, allez-y, oui.
Ouais, je l'ai fait ce matin pour... Ouais. Ça équivaut à un peu plus de 50 articles par an, autrement dit, un article par semaine. Or, la recherche fondamentale, ben, ça nécessite un temps beaucoup plus long pour publier un article de fond. Il faut souvent plusieurs mois, voire plusieurs années, pour arriver à des résultats méritant une publication. Mmh. Donc là, on est en face de ce qu'on peut appeler une supercherie.
D'accord. Ok. Eh ben, je crois que je vais appeler le service juridique de Radio FMR avant de continuer cette interview. Et si c'était simplement de la prédation sur ses collaborateurs et subordonnés? Genre, non, attends ta recherche, je me mets en premier, etc. Et c'est comme ça, c'est toujours comme ça qu'on a fait chez nous.
Oui, c'est un peu ça le principe.
Donc ça veut dire qu'il y a un problème de management abusif.
Alors, on va pas entrer dans le détail du fonctionnement interne de l'IHU. Hein. Bon, je crois qu'il y a un procès en cours et on en saura un peu plus. Il y a eu un reportage récemment là sur une chaîne, là, RMC Actu, quelque chose comme ça, RMC Story, voilà, qui était en fait excellent. Même si chaîne.
Non, mais RMC Story derrière, il y a aussi l'équipe BFM et 01 et d'ailleurs ils nous écoutent et on les salue donc. Des journalistes de qualité quand même.
Tout à fait.
Donc là-dessus, il y a un procès qui est en cours. Donc déjà, il y aurait un problème de management, quoi. En plus.
Oui, mais ce que je voulais dire, c'est que pour en avoir pas mal discuté avec des doctorants ou des post-docs, hélas, c'est souvent le même schéma qui se dessine un peu partout dans les laboratoires.
C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a fait ce système, donc le SIGAPS et tout, ça introduit ce niveau de prédation sur la paternité des études.
Non, mais il faut pas rester focalisé sur le SIGAPS. De façon générale, ce qui m'a été dit, hein, bon, mais après, voilà, ce sont des discussions totalement informelles. Très souvent, ce sont surtout les doctorants, les post-docs qui publient beaucoup dans les labos. Et au moment de publier, ben, le directeur de laboratoire demande à ce que son nom figure également dans la liste des co-auteurs. Alors parfois à raison, parce que...
Oui, il peut avoir collaboré, mais
parfois pas du tout.
D'accord, ok. Est-ce que ces systèmes de bonification aux publications est spécifique à la France? On le trouve ailleurs?
On le trouve un peu partout dans le monde. Et depuis, je dirais, 10 ans, les instances d'évaluation, les établissements commencent à vraiment prendre en compte ce problème. Il y a la fameuse déclaration DORA de 2012 qui a été signée récemment par le CNRS, par le HCERS, donc le Haut Comité pour l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. Il y a par l'ANR, hein, l'agence de financement qui finance certains projets validés. Et donc DORA, c'est l'acronyme de Declaration on Research Assessment, hein, donc, qui a été lancé par l'Université de Californie et a été signé mondialement et qui critique en fait cette façon d'évaluer les chercheurs en fonction de leur nombre de publications, en fonction du caractère plus ou moins prestigieux, entre guillemets, des revues, basé lui-même ce prestige sur le facteur d'impact, lui-même étant éminemment critiquable.
Oui, parce que bon, la fameuse phrase de De Gaulle, en France on trouve des chercheurs mais on cherche des trouveurs, il faut que ça reste une boutade. C'est normal de se tromper ou de ne pas trouver dans le principe même de la recherche. Est-ce que cette avalanche d'articles impacte la qualité des revues scientifiques traditionnelles, du coup?
Oui, on le voit bien avec les derniers épisodes de la Covid. En fait, il y a une avalanche d'articles et d'articles plus ou moins bons. Et c'est tout le problème, en fait. Donc, on a vu certains éditoriaux sur Nature ou Science se plaindre, en fait, de cette avalanche qui ne permet pas, en fait...
Donc les éditeurs eux-mêmes disent stop, faut se calmer, quoi. Eux-mêmes, ils le disent, eux-mêmes, ils le reconnaissent.
Eux-mêmes le reconnaissent.
C'est CPU, l'émission Cœur et Petit Utile, et nous sommes avec Pierre Nagelen, bibliothécaire responsable des ressources électroniques à l'Université Paul Sabatier, pour parler des articles scientifiques. Quand une étude est erronée, quelle est la bonne pratique, alors, pour les auteurs ?
Eh bien, si l'étude est publiée chez un éditeur et que après coup, le ou les auteurs s'aperçoivent que, en fait, il y avait une erreur dans le protocole ou que certains chiffres étaient faux, etc. Bien, s'ils s'en aperçoivent après coup, le bon réflexe, ça serait de demander à l'éditeur le retrait de l'article, ce qu'on appelle une rétractation. Mais peu d'auteurs osent le faire parce que il faut le reconnaître. C'est assez mal vu dans le milieu. Il y a un site qui s'appelle Retraction Watch qui traque toutes les rétractations. Et bon, en général, quand un article est retiré, c'est vraiment qu'il était mauvais. Alors, j'ai vu une discussion sur Twitter qui m'a assez intéressé. C'était un chercheur en informatique qui disait la chose suivante. La rétractation peut s'expliquer pour des raisons assez légitimes, telles que le fait qu'il y a eu une petite erreur de code qui a été décelée trop tard. Or, il y avait une pression importante au sein du labo pour publier le plus rapidement possible. Peut-être qu'il y avait une évaluation en cours au niveau du HCRS et qu'il fallait absolument publier avant l'évaluation. Et peut-être que les chercheurs n'ont pas eu le temps de se relire, parce qu'ils mènent un rythme effréné. En général, ils relisent les articles la nuit, quoi. En dehors de leur temps de travail. Et donc, voilà, il ne faut pas toujours jeter la pierre. Parfois, c'est une démarche tout à fait d'intégrité que de demander le retrait d'un article.
Ça n'est pas sale. Il faudra le dire à certains spécialistes de la recherche sur la consommation électrique de l'industrie informatique. Quand une étude est volontairement biaisée, quelle est la sanction alors pour les auteurs ?
Alors, je dirais que la première sanction, elle est symbolique, en fait. C'est-à-dire que si la tricherie est avérée et rendue publique, les auteurs subissent une sorte de déshonneur, en fait, qui entache leur réputation. Voilà. Mais il y a aussi, effectivement, des enquêtes internes au sein des institutions. Je vais faire un constat, disons, pour la France, et puis je vais l'étayer par quelques exemples. Voilà, mon constat, c'est que il y a une certaine passivité, parfois, des institutions quand elles font leur enquête, ou du moins une certaine lenteur pour traiter les cas, surtout si les laboratoires en question jouissaient jusque-là d'une certaine notoriété.
Je ne vois pas du tout de qui vous voulez parler.
Alors, je peux donner quelques exemples. On trouve tout ça sur Wikipédia. Allez, quelques noms. Allez, tant pis. Anne Perroche. Donc, c'est une généticienne. Elle a été présidente par intérim du CNRS de fin 2017 à 2018. Et très peu de temps après sa nomination au CNRS, en fait, il y a des soupçons qui commencent à courir sur l'intégrité de ses travaux.
Enflammé, vous pouvez m'appeler de suite l'avocat.
Oui.
Ensuite.
Eh bien, en fait, l'enquête a vraiment traîné en longueur et des observateurs fins du dossier, je pense à Sylvestre Huet et David Larousserie, donc des journalistes scientifiques bien connus, avec une réputation qui n'est plus à faire, ont vraiment critiqué la façon dont ces enquêtes ont été menées, les lenteurs, et il semblerait même que la ministre Frédérique Vidal est elle-même ralenti en fait le cours de la procédure et donc au final il a fallu attendre 2020 pour qu'on connaisse l'intégralité du rapport du comité présidé par Jean-François Bach et la sanction a été extrêmement minime puisque ça a été 2 semaines de mise à pied.
Oui, ok.
Un autre exemple, ça a été Olivier Bouvoinet. Biologiste au CNRS et également chercheur à l'école polytechnique de Zurich, et donc c'est intéressant puisque dans son cas il y a eu une double procédure. procédure en France,
France et une autre en Suisse.
Et là, on s'est aperçu qu'il y avait un traitement absolument différencié.
Oui. D'accord.
En Suisse, ils étaient beaucoup plus...
Ils sont beaucoup moins neutres.
Eh ben, beaucoup moins neutres, oui.
D'accord.
Ils ont été beaucoup plus précis dans l'examen des pièces du dossier. Alors que en France, ils ont un peu traîné des pieds.
D'accord.
Je voudrais pas qu'on se limite à la France parce que il faut savoir que en fait des cas de ce qu'on appelle d'inconduite scientifique, on en trouve un peu partout, dans toutes les universités, dans tous les labos du monde.
Oui, mais ce que l'on remarque quand même quand on regarde le milieu anglo-saxon, c'est que quand il faut retirer une étude qui est considérée comme problématique ou qui est volontairement biaisée, c'est bien su, lourdement su, et il y a quasiment une ostracisation de l'auteur en question. En France, en comparaison, il y a, comme vous dites, c'est quasi rien.
Voilà, ce qui concerne les sanctions, on voit quand même des différences. Je donnerai deux exemples. Donc, Elisabeth Bick, dont on parlera peut-être tout à l'heure, donc une chercheuse en biologie qui s'est spécialisée en intégrité scientifique, a récemment donc contribué à une enquête visant à démontrer donc qu'il y a un président d'université chinoise donc avait eu une inconduite scientifique. Il a été sanctionné d'un an de suspension de subvention et d'encadrement de thèse. Voilà.
Ouais. Ok.
C'est déjà pas mal. Et un autre exemple sur le blog d'Elisabeth Bick, un professeur de chimie donc de la Northeastern University de Boston. Thomas Webster, il se trouve qu'il y avait 70 de ces articles qui avaient été signalés sur le site PubPeer.
On va en parler tout à l'heure, aussi.
Et donc, il a décidé, là, début mai, de démissionner, purement et simplement.
D'accord. Est-ce que quand une entreprise finance un labo, sponsorise ou est partie prenante d'une étude scientifique, il faut systématiquement s'en méfier ?
Non, évidemment, il y a de la recherche appliquée qui est financée en partie ou totalement par des laboratoires. Alors, je vais évidemment nuancer. On connaît des précédents célèbres. Alors là, je vous renvoie un documentaire formidable là, qui est paru, qui a été diffusé récemment sur Arte, qui s'appelle La fabrique de l'ignorance. Et donc, ce documentaire est consacré à ce qu'on appelle la science de diversion. Alors, autrement dit, en fait, à des études scientifiques plus ou moins bidons qui sont en fait financées par des entreprises privées, par l'industrie. Ça peut être l'industrie de l'agroalimentaire, ça peut être
le tabac, la voiture,
exactement,
les transports, etc.
Big Tobacco, tout ça, et de façon à inonder le marché, le marché de l'édition scientifique, d'articles qui vont détourner l'attention des citoyens des véritables enjeux, des dangers du tabac, de l'alcool ou des pesticides. Bayer, Monsanto, etc.
On m'a dit qu'il y a des bureaux d'études qui fournissent des articles scientifiques préassignés et publiés, tout comme d'ailleurs dans les années 80, ça, c'est un procédé que j'ai vu, ça m'a halluciné. Il y a des bureaux d'études qui fournissaient des brevets prêts à être déposés à ton nom pour défiscaliser tes revenus que tu pouvais avoir à l'étranger. Est-ce que c'est courant finalement ces articles prêts à être publiés à votre nom? Est-ce qu'il y en a qui se font choper là-dessus?
Alors là, pour répondre à votre question, je vais renvoyer à nouveau à Elisabeth Bick.
Je pose cette question parce que il y a un mois ou deux, au moment de l'enregistrement de cette émission, on a parlé quand même d'usine à publier de la copie pour en fait des étudiants en médecine chinois.
Exactement, voilà. Donc ce qu'on appelle les usines à articles, et en fait, ce sont des entreprises qui vendent des articles à des médecins chinois. Parce que donc ils ont besoin de publier un article scientifique dans une revue internationale pour obtenir le diplôme de médecine. Et donc ces entreprises en fait recyclent les mêmes images à des quantités, dans des quantités parfois impressionnantes. Hein. Donc, Elisabeth Bick a repéré une image qui a été réutilisée dans 560 articles différents.
Pas mal. Pas mal. Elles étaient créditées comme étant une étude originale à chaque fois, enfin une image obtenue d'une expérience originale à la dite publication à
oui,
chaque fois.
Oui, oui, d'accord. Bien sûr, et mieux que ça, ces articles ont été publiés par de grands éditeurs. Hein. Je suis allé voir un petit peu les données liées à cette étude. Donc, il y a un certain nombre d'articles qui ont été publiés chez Elsevier, Wiley, Taylor et Francis, etc.
Et les 560 professeurs, et les 560 médecins chinois, ils exercent toujours ?
Ah, je pense que oui.
D'accord. CCPU avec Pierre Nagelen, bibliothécaire responsable des ressources électroniques à l'université Paul Sabatier, pour parler des articles scientifiques. Ce qui a motivé vraiment, parce que ça faisait un bail quand même que ce sujet, on voulait le faire, ça faisait plus de 5 ans en fait, hein, qui traînait dans un coin. Et vous avez écrit un excellent article sur votre blog, « Ce que nous dit la Covid de l'édition scientifique ». J'étais sidéré du nombre de problèmes que vous y remontez. Je m'attendais pas à quelque chose de glorieux, mais à ce point-là...
Ben, merci.
Sérieusement, vous n'arrêtez pas de me dire depuis tout à l'heure, vous avez d'excellentes questions. Moi, je peux vous dire, non, je suis désolé, vous avez d'excellentes matières derrière. Ça vous trottait depuis un bail ou vous avez découvert quelque chose une fois que vous avez ouvert sous le couvercle, des trucs encore plus crades que ce que vous pensiez ?
Y a une partie des problèmes que je connaissais depuis assez longtemps, à force de me renseigner sur l'édition scientifique. Enfin, je dispense des formations à mes collègues, etc. Et puis... franchement, si je devais conseiller une source d'information sur l'édition scientifique à nos auditeurs, ben tout simplement Twitter, en suivant quelques chercheurs avec une certaine réputation. Donc pas Didier Raoult.
Si vous utilisez la fonction liste sur Twitter, que vous avez une liste justement de personnalités à suivre, on mettra le lien sur la page web de l'émission. On va parler d'une web extension. Pierre, oui, bon, ça peut sembler bizarre de parler d'une extension de navigateur web, mais elle a un rapport direct avec le sujet. Cette extension fait automatiquement le lien entre un article que l'on est en train de consulter dans son navigateur et un site, PubPeer, qui a été lancé en 2012 par un membre du CNRS. Alors, que fait PubPeer ?
Voilà, donc PubPeer, alors c'est pas juste une web extension, mais c'est aussi une plateforme. Hein, créée
oui, l'extension fait le lien ouais. automatiquement, pour suivre ça.
Exactement. Ouais. Donc, ça a été créé dans le but d'offrir un forum de discussion aux chercheurs, où ils vont commenter des articles ou des préprints commenter soit en bien, soit en mal. Et c'est souvent en mal, en fait.
Ouh là là, qu'est-ce que ça doit bitcher alors ? Pire que dans la cour d'école.
Mais on se dit que c'est parfois nécessaire. Hein. On a déjà évoqué avant le fait que le travail de peer reviewing parfois laisse à redire, parfois n'est pas du tout effectué, hein, le cas des éditeurs prédateurs. Et il est donc parfois nécessaire de revenir sur ces articles qui ont été publiés. Et pour les critiquer, pour les mettre en perspective, ou simplement pour s'interroger sur certains éléments qui concernent le protocole, les images utilisées, etc., etc. Alors, PubPeer est décrié par certains comme outil de délation, voilà, parce qu'il a permis de mettre en cause, parfois par le biais de l'anonymat, des travaux de chercheurs renommés ou connus. Hein,
donc, il ne s'agit pas de diffamation.
Tout à l'heure, on a parlé d'Olivier Vouanet, de Dan Perroche, hein, on a parlé aussi de Catherine Jessus.
Bon, donc voilà. S'ils utilisent le mot délation, donc ça veut dire que déjà ils disent pas que c'est de la diffamation, que c'est basé sur des faits réels qui sont portés connaissance. Quoi.
Mais à partir du moment où la critique de ces articles est justifiée, on peut plus parler de diffamation, puisque PubPeer n'a pas vocation à dire du mal de tel ou tel auteur, mais simplement à s'interroger sur les protocoles mise en œuvre pour la réalisation de ces travaux scientifiques.
Est-ce qu'on pouvait mieux utiliser Photoshop pour remodifier ces photographies de tubes à essai? Il y a des plaintes en justice abusive qu'on appelle des procédures Bayon. C'était le cas de la part d'entreprises quand des scientifiques enquêtaient sur elles ou leurs impacts. Maintenant, on le voit venir entre scientifiques puisque Didier Raoult et Éric Chabrière s'attaquent à des commentateurs du site Peupir, dont Elisabeth Bitt, qui est renommée quand même dans son travail sur la recherche en intégrité scientifique. Est-ce qu'on perd le droit de faire une analyse critique d'un travail scientifique?
Alors, à mon avis, il y a une probabilité raisonnable pour que, en fait, Didier Raoult et Éric Chabrière perdent leur procès. On peut revenir là-dessus. Alors, de quoi est accusée Elisabeth Bick? Donc, il y a une plainte qui a été déposée le 29 avril auprès du procureur de Marseille pour, je cite, « harcèlement, tentative de chantage et d'extorsion ». Voilà. Alors, il y a Elisabeth Bick, il y a aussi Boris Barbor, le fondateur de Peupir, qui est aussi...
Extorsion, donc ça veut dire qu'il dit qu'il a une preuve comme quoi on lui a...
Justement.
Il voulait faire payer ou...
Voilà.
Ou une caisse de pastis pour se soigner contre le Covid.
Voilà, c'est l'aspect le plus risible de l'accusation. Ils estiment qu'Elisabeth Bick se serait livré à une tentative de chantage et d'extorsion de fonds. Tout ça parce que... c'est suite à un échange sur Twitter... lorsqu'il lui avait demandé sur Twitter d'expliciter ses sources de revenus, elle avait indiqué, en plaisantant, qu'elle avait fait une levée de fonds sur quelque chose comme Tipeee.
Oui, Tipeee, Ulule, crowdfunding.
Voilà. Et par plaisanterie, elle leur a répondu qu'ils pouvaient y participer. Voilà. Et ça a été pris au premier degré par Éric Chabrière. Et Didier Raoult, c'est
alors dans ce cas-là, je vais insérer ici une citation de Didier Raoult. Non mais taisez-vous, vous pouvez pas comprendre. C'est quand même fou.
Quant à l'accusation de harcèlement, elle est tout aussi risible en fait. Elisabeth Bick, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a publié sur Peupir une soixantaine de commentaires sur les articles co-signés par Didier Raoult. Pour s'interroger sur des problèmes en lien avec ces articles. Alors, David Larousserie, qui est donc journal scientifique du Monde, là, il a dressé une typologie donc de ces commentaires. C'est de trois types. Ça peut être des oublis de déclaration de lien d'intérêt.
Oui. Je dirais qu'il y a plein de députés, de sénateurs et de ministres qui oublient de le faire.
Des remarques d'ordre éthique. Certaines études n'ont pas fait l'objet de demande d'autorisation à un comité de protection des personnes.
Ah, ça, là, on commence à aller, oui, un petit peu plus dans le répréhensible.
Et la retouche d'images et des réemplois dans différents articles. Il y a notamment un article qui réutilisait une image qui venait en fait de Wikipédia.
De Wikipédia, dont l'auteur a dit, je vous confirme j'ai pris cette photo en 2005, je l'ai publiée sur Wikipédia en 2007 et que monsieur Didier Raoult utilise très mal Paint pour faire des copier-coller aussi grossiers, c'est ça?
Exactement.
Ouais, d'accord, ok. Bon, d'accord. Au départ, quand j'avais commencé à préparer le sujet en 2017, Trump venait d'être élu 45e président des États-Unis, avait fait dépublier des études du NOAA, qui est l'organisme météorologique public aux États-Unis, car il ne croyait pas au réchauffement climatique. D'ailleurs, une commission d'enquête a été montée par l'équipe Biden à ce sujet. Ça, l'info est sortie justement cette semaine. Est-ce que le politique peut influencer les résultats? Et dans ce cas-là, est-ce que c'est une fragilité majeure de la recherche publique?
Alors, il est vrai que les politiques peuvent orienter la recherche en privilégiant certains types de recherche à la mode, ce qu'on appelle les hot topics. Mmh. Voilà. Par exemple, il y a 10 ans, le hot topic, c'était les nanosciences.
Voilà. Actuellement, c'est l'intelligence artificielle.
Voilà, exactement. C'est ce que j'allais dire. Ouais.
Mais attention, version quantique.
Là, ça devient plus difficile. Et une autre façon de peser sur la recherche, ça peut être à l'inverse de tarir les financements dans certains domaines de recherche. Et quand on voit comment la recherche française est actuellement sous-financée, on a vraiment envie de pleurer.
Hélas, ouais, là-dessus on est d'accord. Est-ce qu'on se rapproche aussi parfois de l'affaire Lysenko, dont je viens de parler, où là encore une pseudo-science a été poussée pour asseoir une idéologie politique ? Et est-ce que vous avez un exemple, pas forcément récent justement ?
Moi, j'ai.
Je parle pas forcément des avions renifleurs de Valéry Giscard d'Estaing.
Non, moi j'ai deux exemples, mais alors ultra récents. Mmh. Le premier, le président Emmanuel Macron qui vient rendre visite à Didier Raoult à l'IHU de Marseille. C'est absolument dramatique. Hein. Son geste signifie que les politiques n'ont que faire de la validité des expériences scientifiques. Que la politique finalement évolue dans une réalité alternative, hein, pour reprendre un peu les termes de la conseillère en communication de notre regretté dernier président des États-Unis.
Alors, je tiens à signaler quand même une blague que m'a raconté en privé quelqu'un qui a été justement lors de cette visite, qui m'a dit il aurait dû se méfier. Il a bien vu quand même que le tapis rouge était déroulé, non pas pour lui, mais pour le maître des lieux. Donc, exactement. Ça m'avait beaucoup fait rire. Voilà. Et sinon, l'autre exemple.
Madame Frédérique Vidal, donc, qui est ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation, elle a intenté une sorte de procès en islamo-gauchisme à destination des chercheurs en sciences humaines. Mmh. Elle a créé de toutes pièces, en fait, un concept qui n'existe pas, hein, dans le.
Oui, qu'on avait même pas au niveau, que même les chercheurs spécialistes sur le domaine de l'islamisme ou des mouvements de gauche, extrême gauche disent, d'où c'est que vous sortez
ça?
On a aucune publication sur le sujet.
C'est absolument grotesque. Ça nous rappelle les procès en judéo-bolchevisme des années 30.
On vient d'en parler.
Et après ce genre de propos, on pourrait s'attendre à ce qu'une ministre qui décide de ne plus soutenir les chercheurs ait le courage soit de s'excuser, soit peut-être de démissionner. Il n'en est rien.
Monsieur Pierre Nagelen, ma dernière question. Est-ce que vous êtes confiant sur l'avenir de la recherche en France, de ce point de vue-là ?
Quand on voit le poids grandissant du politique sur la recherche, on peut s'inquiéter. Et si on quitte un petit peu les sujets qu'on vient d'aborder, il y a d'autres inquiétudes au niveau français qui viennent du degré de sous-financement de la recherche, du nombre dramatiquement bas de postes pour les doctorants, trop peu de financement, trop peu de moyens. La loi recherche qui consacre en fait la précarisation de la recherche, puisque elle crée les contrats de chantier qui se veulent être des CDI, mais en fait il est très clair que ce sont des CDD améliorés. Et donc c'est extrêmement préoccupant.
D'accord. Pierre Nagelen, merci beaucoup pour nous avoir accordé du temps pour ces deux émissions. C'est absolument passionnant. Une fois de plus, il y a une liste complète de liens que l'on a mis sur les pages web de l'émission. En tout cas, c'est un éclairage qui nous permet de voir un petit peu de côté justement la face numérique de notre monde. Merci beaucoup.